Manuel Valls obtient la confiance de l'Assemblée nationale, mais il est loin, très loin d'avoir la majorité absolue. Les frondeurs du PS se sont bien abstenus. Alain Christart et Jean-François Merle poursuivent leurs entretiens dans le cadre de la mission sur l'avenir institutionnel qui leur a été confiée par le Premier ministre. À la fin des travaux du deuxième forum de la mobilité, ils avaient pour objectif de finaliser le futur schéma des transports et de la mobilité en Calédonie. La signature d'un accord historique entre Kiev et l'Union européenne, c'était cette nuit pour nous. L'Ukraine s'éloigne encore un peu plus de Moscou. Le football et le coup d'envoi de la Ligue des Champions. 8 matchs au menu ce matin. Il y a un club français sur les pelouses européennes. L'AS Monaco qui reçoit les Allemands du Bayer Leverkusen. La météo, vigilance jaune, forte pluie, orage ce matin sur Lifou et Marais. Ailleurs, le ciel alternera entre nuages et belles éclaircies. Les températures comprises entre 24 et 28 degrés au meilleur de la journée.
Vos rendez-vous dans ce 6h-8h, juste après le journal, vous avez un avis. Vous réagissez en direct à l'actualité du jour au 25-46-46. À 7h20, le rendez-vous bonne humeur de ce début de journée. La revue de presse de Nicolas Canteloup. À 7h30, nos invités du matin, Alain Christnart et Jean-François Merle, répondront aux questions d'Elisabeth Noir. À 7h50, Tequitois Sandrine Athée recevra Didier Cadour, secrétaire général de Force Ouvrière. 8h, l'interview d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach recevra l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Info matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Lionel, bonjour.
Bonjour Robert, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité politique en métropole.
Emmanuel Valls qui a donc obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. 269 voix pour, 244 contre. Il y a aussi 53 abstentions, dont 31 émanant de ce que l'on appelle les frondeurs du Parti socialiste. Il y a 5 mois, lors de son précédent discours de politique générale, Manuel Valls avait obtenu 306 voix pour. On le constate, il y a donc une perte sèche de 37 voix pour le Premier ministre. Et cette nuit pour nous, ce sont donc les frondeurs du PS qui ont pesé très lourd dans le résultat. Aurélie Herbemont pour Europe 1.
Ces frondeurs ne sont pas mécontents d'avoir pesé aussi lourd, 31 abstentions, c'est presque 3 fois plus qu'au mois d'avril. Emmanuel Valls a aussi perdu les écologistes dans la bataille, pas un seul vote pour, alors que la dernière fois, ils étaient 10 à lui accorder un oui. Alors ça laisse présager des débats compliqués au moment du budget, car la fracture des deux gauches n'est pas du tout résorbée ce soir. Rendez-vous compte, vous le disiez, en avril, Manuel Valls avait recueilli 306 voix pour, seulement 269 aujourd'hui. Alors je peux vous dire que les conseillers du Premier ministre sont là, à l'Assemblée pour dédramatiser en disant que ce résultat était attendu et qu'il y a bien une majorité pour agir. Mais Matignon reconnaît quand même que ce groupe charnière rebelle du PS, eh bien avec eux, ça va être une bataille permanente.
Venons-en maintenant au discours prononcé cette nuit pour nous par le Premier ministre. Un discours au cours duquel le chef du gouvernement a fait quelques annonces économiques et sociales. Manuel Valls, on le sait, était attendu au tournant par sa propre majorité. Et le Premier ministre a tenté, lors de son intervention, de mettre le cap à gauche. Alexandre Carra pour Europe 1.
Objectif non avoué de ce discours, se défaire de cette étiquette de social-libéral qui lui colle à la peau pour se recentrer sur sa gauche. Un casse-tête évidemment sémantique pour le Premier ministre, donner des gages à la gauche sans se renier pour autant. Alors l'homme qu'il y a encore peu, vous en souvenez, clamait son amour sans retenue de l'entreprise devant le MEDEF, a décidé cette fois de modérer son propos. Du coup, c'est à l'État, incontournable totem de gauche, qu'il déclare sa flamme. Il prononce même 16 fois le mot État dans son intervention. L'État qui intervient économiquement et qui s'oppose à la main invisible du libéralisme.
Moi, je crois à la main visible de l'État. Notre État a son rôle à jouer dans une économie de marché.
Mais aussi l'État qui défend et protège les citoyens avec son bras armé, les services publics.
Renouer avec les valeurs de la République, c'est reprendre le combat pour l'égalité. Il doit s'appuyer sur nos administrations, sur l'État. J'entends ceux qui, sans cesse, demandent moins d'État. Mais moi, je sais que rien n'est possible dans ce pays sans l'État, sans nos services publics. Jamais moins d'État, toujours mieux d'État.
Autre marqueur de gauche, la lutte contre les inégalités. Il prononce 10 fois le mot dans son intervention et celui que certains accusent d'avoir renié les idéaux de Jaurès et de Blum trouve presque des accents lyriques pour décrire une République aux valeurs forcément de gauche.
La République a toujours été le patrimoine de ceux et de celles qui n'ont rien, de ceux à qui la vie n'a rien donné ou qui ont tout perdu. Et la mission de mon gouvernement sera de remettre pleinement la République au service de tous, pour casser les inégalités.
Enfin, il ne renie pas la réforme. D'ailleurs, il prononce le mot 19 fois. Mais face à ceux qui l'accusent, les frondeurs notamment, de mettre au cœur de la réforme l'austérité, il contre-attaque par l'exemple.
Réformer, ce n'est pas réduire le SMIC. Réformer, ce n'est pas supprimer le CDI. Réformer, ce n'est pas diminuer les salaires dans la fonction publique. Réformer, ce n'est pas casser notre modèle social.
Alors vous le voyez Isabelle, hein, plus qu'un discours de politique générale, il s'agissait bien cet après-midi d'un exercice de clarification idéologique vis-à-vis du PS et surtout du peuple de gauche. Face à sa chute dans les sondages, Manuel Valls veut clairement tenter de consolider le socle de son électorat nécessaire pour tenir le plus longtemps possible.
Et après ce discours, les réactions bien sûr sont enchaînées. Écoutez celle pour commencer de Mathieu Hanotin, député de Seine-Saint-Denis. Il fait partie des frondeurs du Parti Socialiste.
Je suis content parce que nous avons aujourd'hui cherché à montrer qu'il n'y avait pas de majorité à gauche, une majorité absolue pour appliquer cette politique-là. Aujourd'hui, la gauche, elle a besoin de rassemblement. On ne peut pas gouverner comme ça. On ne peut pas gouverner avec une partie de son propre parti qui dit « ça ne va plus », les Verts qui s'abstiennent, les communistes qui votent contre. Moi, je suis convaincu qu'il y a une majorité beaucoup plus large que celle qui était là pour faire une autre politique à gauche.
Ça sera une bataille permanente qui va reprendre très vite sur le budget.
Écoutez, la solution pour ne pas en arriver là, les uns et les autres la connaissent. Il faut que chacun fasse des efforts de rassemblement. La gauche, elle ne peut gouverner dans la durée que rassembler.
Réaction également à droite, Christian Jacob est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale.
C'est un échec. C'est un échec. Il a perdu la majorité absolue. Par rapport à la dernière fois, c'est 38 voix de moins. C'est surtout en dessous des 289. C'est-à-dire que ce gouvernement n'a plus de majorité. Il a une majorité relative. Quand je disais tout à l'heure que les jours de Manuel Valls étaient comptés, ils sont vraiment comptés. Le gouvernement, pour la première fois depuis 2 ans, n'a plus de majorité, ou du moins il a une majorité relative, mais la majorité absolue ne l'est pas. C'est un Premier ministre qui, en 5 mois, perd 38 voix de majorité dans sa propre famille politique, c'est le signe que ce gouvernement, aujourd'hui, n'a plus de crédibilité pour tenir.
La dernière réaction, celle de Marine Le Pen, la présidente du Front National.
C'est pas facile de commenter le vide, en fait. Hein. Moi, j'ai été frappée par la vacuité de ce discours, qui est une succession de formules complètement déconnectées de la réalité, qui ne correspondent pas aux préoccupations qui sont exprimées par les Français. Chacun qui analyse la vie politique est bien conscient que ça ne peut pas tenir. Le niveau d'impopularité du président de la République, de ce gouvernement, l'absence totale d'issue politique, économique, sociale à ce que nous vivons, ne peut qu'entraîner à un moment donné ou à un autre la dissolution de l'Assemblée. Donc je vous dis, aujourd'hui, l'exercice a consisté à dire encore quelques minutes, monsieur le bourreau.
Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin après ce discours de politique générale de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui, je vous le rappelle, a obtenu la confiance de la représentation nationale, 269 voix pour, 244 contre, 53 abstentions, dont les 31 des frondeurs du Parti Socialiste. Il est 6h38, une première pause dans ce journal.
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 17h30, le Sweet Café lance son self-service dès 10h30 avec 6 à 8 plats différents tous les midis. Et toujours les plats emportés et le vendredi soir, son happy hour. Tout est possible au Sweet Café, votre snack restaurant à Bouraï. Téléphone 44 29 30.
Chef d'entreprise, pour une meilleure gestion de votre entreprise, faites votre autodiagnostic. La CCI vous propose 5 formations courtes, suivies d'un accompagnement personnalisé sur site, ainsi que le transfert d'outils informatiques de gestion. Pour en savoir plus, contactez la CCI au 24 40 74 ou conseil@cci.nc.
Se dépasser pour l'exploit ou pour soi, aller plus loin, plus vite ou simplement finir, c'est écrire sa légende. Dimanche 5 octobre, pour les 20 ans de la Gigawatt, vous aussi entrez dans la légende du Sud. La Gigawatt vous propose sa course en 10, 20 ou 30 km par équipe de 2. Pour les juniors, des 10 à 13 ans, c'est 4 km en individuel. Renseignements et inscriptions jusqu'au 1er octobre dans les agences Enercal, Challenge Organisation, Ozone Sport, Licorne Sport, Decathlon ou sur enercal.nc. La Gigawatt le 5 octobre, 20 ans de légende.
Les copains, vous savez quoi? En ce moment, le gouvernement nous donne un sacré coup de pouce pour passer notre permis de conduire.
Ah bon? Ah bon?
Oui, il faut avoir 18 ans minimum, être demandeur d'emploi admis en formation professionnelle, ou avoir fait déjà une première année d'apprentissage, ou bien encore être en terminale bac pro.
Hey, comment on fait?
C'est simple, pour plus d'informations, il faut appeler la DI3T au 28 04 48. Le permis pour l'emploi? Un permis pour réussir?
Ce message est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
RRB. Pour être le premier et le mieux informé.
Info Matin, la suite avec vous, Lionel Sabot.
L'actualité en Calédonie, Alain Krisnart et Jean-François Merle poursuivent leurs entretiens dans le cadre de la mission sur l'avenir institutionnel qui leur a été confiée par le Premier ministre, mais ils ne verront pas Pierre Frogier. Le sénateur et signataire de l'accord de Nouméa refuse de les rencontrer. Il a de nouveau expliqué pourquoi, c'était hier midi dans notre édition de la mi-journée. Il refuse de les voir notamment parce qu'ils se sont trahis sur la question essentielle du gel du corps électoral provincial. Et il n'est pas question, dit-il, d'être trompé deux fois.
Ce que j'affirme, c'est que ces personnalités étaient au centre des négociations en 1998. Et d'ailleurs, ils devraient en être fiers. Parce que l'accord de Nouméa a permis de faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, sur cette affaire du corps électoral, il y a probablement des engagements qui avaient été pris vis-à-vis des indépendantistes dans les coulisses. Et finalement, eh bien, moi, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais négocié ça. Je n'ai pas signé l'accord de Nouméa pour ça. Je me suis fait avoir une première fois. Il n'est pas question que je me fasse avoir une deuxième fois. Enfin, moi, pas moi. Là, j'essaie de porter la parole des Calédoniens, en tout cas, celles et ceux qui nous font confiance. Encore une fois, je respecte ces personnalités, mais il n'est pas question que ce soit les seuls qui représentent l'État dans les négociations.
Pierre Frogier s'interroge aussi sur la méthode qui a présidé à l'envoi de cette mission. Il a des soupçons concernant les objectifs du pouvoir socialiste.
Je pense que les socialistes, je pense que la majorité actuelle en métropole a compris qu'en 2017, il allait y avoir une alternance. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser que le gouvernement a décidé de mettre les manettes en avant, d'accélérer le tempo, d'accélérer, de nous obliger, de nous contraindre à des discussions parce que je n'exclus pas qu'ils nous mettent devant le fait accompli et qu'avant 2017, il y ait un premier référendum. De façon que, en cas d'alternance, après l'échéance présidentielle, la nouvelle majorité soit pieds et poings liés par rapport à ce qui se sera passé avant 2017.
Pour déclencher un premier référendum avant 2017, il faut une majorité des 3/5 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais Pierre Frogier pense que ce n'est pas un obstacle, que cette majorité sera facile à trouver.
Quand je vois les connexions qui se font, Philippe Gomez qui est aujourd'hui le meilleur relais des socialistes en Nouvelle-Calédonie, si vous ajoutez les indépendantistes, PALICA, plus Union Calédonienne, plus Calédonie Ensemble, ça vous donne 3/5. Mais donc le Congrès peut à tout moment, dans quelques mois, déclencher un premier référendum. Chacun connaît le résultat de ce référendum. Les Calédoniens, dans leur majorité, j'en suis certain, exprimeront leur volonté de rester français. Donc ça, ça ne fait pas de doute. Mais ce que je crains, c'est qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient écrites, dans notamment l'éclairage. Si vous restez français, ok, mais dans ce paquet-là, il y a des choses qui seront écrites, qu'on ne comprendra pas tous de la même façon, comme ça s'est passé en 98 sur le corps électoral, et qui, pour la Nouvelle-Calédonie, pour nous, risque d'être fatal.
Le président du Rassemblement UMP très méfiant à l'égard des socialistes, et dans ce contexte, il s'interroge sur sa présence au prochain comité des signataires.
Non, je vois pas trop ce qui... J'ai déjà dit tout ce que j'avais sur le cœur, donc comme je pense que je n'aurai pas les réponses, j'ai pas de raison d'y aller pour l'instant.
Il n'y a pas de raison d'y aller pour l'instant, déclare Pierre Frogier. Harold Martin, quant à lui, se demande si le comité des signataires doit être maintenu début octobre ou s'il doit être reporté. Déclaration faite hier soir à l'issue de son entretien avec Alain Krisnart et Jean-François Merle. Harold Martin qui est ressorti convaincu que les deux hommes sont venus pour négocier.
Je voulais comprendre le sens de leur mission, parce que j'ai eu l'occasion de dire qu'à partir du moment où les indépendantistes nous disent on veut aller jusqu'au référendum et puis on veut le référendum et rien d'autre, que Philippe Gorès nous dit c'est le référendum éclairé, ça revient au référendum, et puis que l'État, à l'occasion de la visite de la ministre, nous dit c'est le référendum et rien d'autre, il n'y a pas de troisième accord. Donc dans ces conditions-là, pourquoi ces deux missionnaires viennent? C'est la question. Et bien figurez-vous qu'ils viennent pour négocier. C'était bien qu'ils viennent jusqu'ici pour le dire, parce que moi ça m'intéresse de négocier, puisque moi je sais bien que si on fait un référendum, une fois, on le fera trop. Alors après, ça peut changer tout ça. Si on modifie la Constitution, qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier la Constitution? Il faut d'abord commencer par être d'accord ici. Ce que M. Krisnart reconnaît. Donc pour être d'accord ici, il faut quand même bien discuter. Il faut quand même bien négocier. Donc c'est pas une mission d'écoute et d'information. Ce sera bien pour négocier. On y arrive enfin. Depuis le temps qu'on est un certain nombre à le demander.
Mais pour éviter les 3 référendums, il faut modifier la Constitution et donc réunir le Parlement en congrès à Versailles. Et Harold Martin pense que ce n'est pas gagné.
Et donc quand je demande à M. Krisnart si, dans le contexte actuel où on a quand même un Premier ministre qui dit tous les jours que c'est pas facile, on a un président de la République qui est quand même très affaibli, est-ce que dans un contexte comme celui-là, on arrive à modifier la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie et que de surcroît, la droite est d'accord? Il me dit que oui. Ben, j'ai dit que si, alors il n'y a pas de problème pour lui, il faut commencer à arranger les relations entre cette même mission et Pierre Frogier, parce que le sénateur, c'est quand même bien Pierre Frogier, et que le Sénat va passer à droite, et il vaut mieux que le Sénat soit dans le coup. Hein. Ça commence comme ça.
Reste aussi à régler le problème de l'Union calédonienne, qui envisage de ne pas aller au comité des signataires. Dans ce contexte, Harold Martin se demande s'il ne faut pas reporter cette réunion.
C'est l'impréparation la plus totale. Et puis, enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, je ne travaille pas de secret pour dire que quand même, il y a une faiblesse à Médétome qu'on n'a jamais vue. Donc, moi, je me demande s'il faut faire le comité des signataires maintenant. Parce que ce que j'ai rappelé à Alain Christart et qu'il sait bien comme moi, c'est que le comité des signataires qu'on fait depuis 1998, quand on le fait chaque année et de surcroît maintenant, depuis un certain nombre d'années qu'on le fait chez le Premier ministre, ça sert à ce qu'à la sortie, on soit d'accord qu'il y ait le consensus. Et à chaque fois, il y a toujours eu le consensus. On est parti pour ne pas l'avoir. Et il faut faire attention parce que si pour la première fois on n'obtenait pas ce consensus sur les questions qui nous concernent, si près de 2018, ça serait un très très mauvais présage.
Et si le comité des signataires a bien lieu, Harold Martin veut que la première question abordée soit celle de la constitution de la liste électorale spéciale pour la consultation de sortie. Il faut, dit-il, supprimer l'obligation de double inscription qu'a envisagé le Conseil d'État. Une question qui, selon lui, fait consensus. J'ajoute que tout à l'heure, ce sont Alain Christ et à Jean-François Merle qui seront nos invités du matin. Interview à suivre à partir de 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
86% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS estiment que Pierre Frogier a raison de refuser de rencontrer les membres de la mission d'écoute et de conseil, puisqu'il affirme avoir été trahi par le gel du corps électoral et qu'il est opposé à cette mission qu'il juge déséquilibré et imposé par le pouvoir socialiste. Ils sont 14% à penser au contraire qu'il a tort de ne pas les rencontrer. Voici notre question du jour. Selon vous, les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour la tenue du comité des signataires? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Comment les usagers perçoivent-ils le déménagement d'une partie de la navigation aérienne de l'aérodrome de Magenta vers l'aéroport de la Tontouta? La question a fait l'objet d'une enquête menée par le GIE d'expertise et de recherche Océanide et les résultats ont été communiqués aux professionnels du transport réunis à Bouraille pour le deuxième forum de la mobilité. Il en ressort que les usagers, passagers et acteurs socio-économiques y sont globalement favorables même s'ils craignent des trajets et des délais d'attente plus longs que l'intérêt général et notamment économique est généralement bien compris, mais que l'aérodrome de Magenta, contrairement à la plateforme de la Tontouta, remplit une fonction socialisante. L'anthropologue Marion Bon a conduit cette étude avec Agnès Pradet, consultante en politique publique.
C'est l'antichambre des îles, le lieu où les liens se tissent et se retissent. Ce qui est très important en fait, parce que ça veut dire que Magenta, c'est pas seulement en fait cet espace consacré aux déplacements au cœur de Nouméa, c'est également cet espace qui est empreint de pratiques familiales, de pratiques informelles, comme par exemple le fait qu'il y a des gens qui viennent simplement pour voir de la famille. C'est vraiment un lieu de haute sociabilité. Au cours de chaque entretien, il a été fait référence par les interlocuteurs à toutes les thématiques concernant les personnes à mobilité réduite, donc les EVASAN, les personnes âgées, les femmes enceintes. Et en fait, l'attention qui va être portée à ces publics spécifique au cours du déménagement sera potentiellement un levier d'acceptation de la part du plus grand nombre.
Et parmi les suggestions avancées par les personnes interrogées pour faciliter l'acceptation de ce déménagement, le doublement des voies jusqu'à la Tontouta ou encore la mise en place d'un bureau d'enregistrement à Nouméa et d'une navette gratuite. Au total, près de 630 personnes ont été interrogées par l'Institut de sondage Quinovi dans le cadre de cette étude. Dans le reste de l'actualité sur le territoire, revenons sur la réunion d'information organisée hier après-midi par les responsables de l'œil, l'Observatoire de l'environnement, la Nouvelle-Calédonie, province sud, créée sous l'impulsion de la société civile pour surveiller l'évolution des milieux naturels et des pressions qui s'y exercent autour du site industriel de Goro. L'œil a achevé son premier mandat, 5 années d'existence sur lesquelles il convenait de faire un point avant de se projeter dans l'avenir, d'où l'intérêt de cette restitution organisée hier et sur laquelle revient très rapidement son directeur Mathieu Juncker.
Elle a donc démontré au bout de 5 ans sa capacité à répondre dans une certaine mesure aux attentes de la société civile en fournissant une information objective et factuelle. Nous avons effectivement un conseil scientifique réunissant 15 experts dans tous les domaines que couvre l'environnement, la géologie, la biologie, l'écologie. Et ce conseil scientifique vient épauler l'Observatoire en rendant des avis sur l'évolution des milieux. Et donc on travaille uniquement sur un socle de science qu'on veut impartial et ensuite on va diffuser cette information vulgarisée.
Quelques pistes en termes de perspective?
Une volonté d'élargir d'élargir le périmètre d'observation de l'œil à la côte oubliée, située entre Yaté et Thio, sur laquelle on sait qu'il y a une flore assez exceptionnelle du Grand Sud et également des enjeux en termes de développement minier. C'est également d'inclure dans l'œil d'autres miniers que ceux actuellement présents sur les communes du Mont d'Or. Et c'est également la volonté du président de l'œil d'avoir un observatoire généraliste et qui parle de biodiversité dans son ensemble, car l'environnement est un domaine qui mérite d'avoir une approche relativement large des phénomènes.
Des perspectives et des recommandations d'orientation qui sont le fruit d'ateliers de séminaires qui ont réuni 50 membres et partenaires de l'œil, comme les associations environnementales, les représentants des populations locales, les collectivités publiques, mais aussi des industriels. Une feuille de route que tous souhaiteraient voir être mise en œuvre durant la mandature 2015-2019. Mais pour le président de la province sud, il s'agit surtout de ne rien précipiter. Philippe Michel.
Le message, ça a aussi été de dire aux interlocuteurs de l'œil, vous avez votre légitimité, vous remplissez une mission essentielle pour l'intérêt général, mais avant d'envisager de passer à une autre échelle, par exemple d'étendre vos activités à l'ensemble du pays, moi je vous demande de travailler étape par étape. C'est-à-dire, assurez-vous que votre mission est pleinement remplie autour de l'usine du Sud, puis envisagez une extension de vos missions à d'autres sites de la province Sud, et on pense notamment à la côte oubliée, puis envisagez, mais seulement à ce moment-là, une intervention à l'échelle du pays. Voilà, je crois qu'il faut faire les choses dans le bon ordre, étape par étape, de manière rigoureuse.
Et pour finir, on peut signaler qu'en 2013, l'œil a rassemblé près de 1400 participants autour de 29 événements. Restitution et perspective de l'Observatoire de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie Province Sud. Nous en reparlerons ce midi dans Infomag, le journal, en compagnie de son président. Raphaël Mapou sera l'invité fil rouge du journal de la mi-journée pour commenter et réagir à l'actualité du jour. Actualité judiciaire, fin du procès ce matin aux assises de Nouméa de Sandra Cottereux. La femme de 43 ans comparaît depuis hier pour le meurtre de sa fille Bianca le 16 juin 2003 à Vao. Les deux femmes s'étaient reprochées leur manière d'éduquer leurs enfants. La dispute s'était envenimée et Sandra avait asséné un coup de couteau mortel à sa fille lors de la première audition. Et la mère avait avoué les faits et déclare qu'elle pensait que la blessure était superficielle, ajoutant qu'elle n'avait nullement l'intention de tuer sa fille. Le verdict est attendu dans le courant de la journée. Les ateliers municipaux de Nouméa bloqués depuis ce matin. Le soin de fonction publique demande que les agents municipaux relevant de la convention collective bénéficient de reclassement. Une première réunion lundi avec les services de la mairie, elle n'avait pas abouti à un accord. Les membres de la centrale du syndicat FO ont bloqué hier les sites de la Star Pacifique. Ils demandent que le 13e mois payé aux employés de la Star soit entier et non impacté par les absences et autres maladies. Les sites de la Star Pacifique ont finalement pu être débloqués vers 16h par les forces de l'ordre. Et puis, les suites du mouvement social à Air France. Air Calédonie indique que les vols Air France au départ de Tokyo pour Paris prévus ce mercredi et demain jeudi sont annulés. En conséquence, Air Calédonie a pris des mesures. Elle s'engage à réacheminer ses clients de Tokyo vers la France. Il est 6h53, une nouvelle pause dans ce journal.
Happy birthday to you, American Car Wash.
Du 15 au 20 septembre, c'est le premier anniversaire d'American Car Wash. Et pour fêter ça, 10 cadeaux sont à remporter chaque jour. Pour jouer, il suffit de remplir votre bulletin de jeu et de le déposer dans l'urne. Et le samedi 20 septembre, découvrez des animations exceptionnelles. Rendez-vous chez American Car Wash, zone commerciale Kenwin. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible chez Maître Jo.
Pour vivre tranquille, en toute sérénité dans votre maison, choisissez la menuiserie PVC pour toutes vos ouvertures. C'est la garantie d'un matériau à la pointe de la technologie, répondant à toutes vos exigences acoustiques et sonores et d'une durabilité exceptionnelle. Chez Batical, les produits en menuiserie PVC sont fabriqués dans nos ateliers avec des profilés de Koenig, le top en la matière. Vous pouvez aussi faire vos garde-corps, vos barrières extérieures, votre portail en PVC.
Batical, la maison idéale, à Bicos et à Koné.
C'est le Festival culturel du Mont d'Or. Du 1er au 7 septembre, une semaine consacrée aux arts du cirque avec 5 compagnies internationales. Puis du 8 au 21 septembre, la danse dans toute sa diversité. Programme disponible sur www.mont-d'or.nc et sur Facebook. Renseignements et réservations au 41 90 90. Avec l'École du cirque de Nouvelle-Calédonie, Concept, Multipresse, les Nouvelles-Calédoniennes, RRB et le gratuit.
La suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
L'actualité à l'étranger en Ukraine, c'est un accord historique qui a été signé entre Kiev et l'Union européenne. L'Ukraine qui s'éloigne donc un peu plus de Moscou, Michael Juneski.
Et avec la ratification de cet accord association entre l'Ukraine et l'Europe, un grand pas a été franchi, même s'il reste très symbolique à l'heure actuelle, puisque l'Union a annoncé que l'accord de libre-échange avec l'Ukraine, qui fait donc partie intégrante de cet accord d'association, est quant à lui repoussé à fin 2015 pour permettre de nouvelles discussions avec Moscou. Ce premier rapprochement est d'ailleurs vu d'un très mauvais œil par la Russie. Le Kremlin a de rechef annoncé le renforcement de son dispositif militaire en Crimée. Et puis cette nuit, pour nous, le Parlement ukrainien a adopté dans la foulée un texte accordant un statut spécial aux régions de l'Est du pays, actuellement aux mains des séparatistes.
L'actualité dans la région Pacifique, à Fidji, où les dernières élections législatives remontent à mai 2006, 591 000 personnes sont appelées aux urnes aujourd'hui dans le cadre d'élections générales qui sont censées marquer le rétablissement de la démocratie dans l'archipel. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
262 candidats vont briguer les 50 sièges à pourvoir dans la nouvelle assemblée, contre 71 dans celle que le président fidjien Ratu Josefa Iloilo avait dissoute suite au coup d'État perpétré par le commodore Bainimarama en décembre 2006. Plusieurs des 7 partis politiques en lice aujourd'hui avaient déjà disputé les précédentes législatives, mais de nouvelles formations ont récemment fait leur apparition, dont le Parti social-démocrate libéral, ou SODELPA, et surtout le Fiji First, ou Fiji d'abord, de Bainimarama. Ce dernier, qui, conformément à la Constitution, a renoncé à l'uniforme pour disputer le scrutin, part largement favori dans la mesure où ses deux principaux adversaires politiques, à savoir les anciens premiers ministres Lassignan Karasé et Manra Chaudhry, sont inéligibles pour avoir été condamnés en justice, le premier pour corruption et le second pour fraude fiscale. Des condamnations qui vont donc faire le jeu de l'ex-commodore et lui laisser le champ quasiment libre. À Sydney, Jean-Pierre Dajac, RRB.
Et j'ajoute que l'Australie a accepté de coprésider avec l'Indonésie la mission internationale d'observation qui va superviser le déroulement du scrutin dans l'archipel. J'ajoute encore que les bureaux de vote ont ouvert à 6h30, heure de Nouméa. Ils refermeront leurs portes à 17h ce soir. Et puis toujours dans la région, mais en Polynésie française, cette fois-ci, Gaston Flosse a été destitué de son poste de sénateur de la Polynésie. Décision prise hier par le Conseil constitutionnel après la condamnation définitive de Gaston Flosse à une peine d'inéligibilité de 3 ans. Gaston Flosse avait déjà été démis d'office de sa fonction de président de Polynésie le 5 septembre dernier. Son mandat de sénateur devait s'achever à la fin du mois. 6h58, une nouvelle pause. Dans un instant, on parle sport et météo.
Vous aimez les petits plats faits maison? Alors rendez-vous le midi et le soir à la boutique traiteur de la Chaumière au quartier latin et savourez sur place ou à la maison toutes les saveurs faits maison de la Chaumière. Grand choix de salades et de plats de qualité traiteur, sandwichs frais, produits locaux et même desserts faits maison. Il y en a pour tous les goûts à la boutique traiteur de la Chaumière. Boutique traiteur de la Chaumière au quartier latin, ouvert 7 jours sur 7 en continu de 10h à 21h. Réservation au 27 24 62.
Luma, la solution à tous vos projets d'extérieur. Terrasse, entrée de garage, contour de piscine, allée piétonne, muret décoratif. Découvrez le savoir-faire de toute l'équipe de Luma dans son nouveau showroom au 28 rue Auguste Novis à Ducos. Un téléphone 27 97 75.
Oula, mais t'aurais pas pris un peu de ventre, toi?
Quoi? Pas du tout.
Oh, si, si, faudrait penser à se remettre au sport, là.
Super, t'as vu mon emploi du temps?
Va chez Bioform.
Chez qui?
Bioform, à Ducos. Ils sont super et en plus, ils ont complètement refait leur salle. Plus grande, plus moderne, avec plus de machines et des nouveaux programmes de cours.
Bah, pourquoi pas? Bah, ceci dit, j'en connais une autre qui aurait besoin de faire un peu de sport.
Hé, comment ça?
Et oui, votre salle de sport Bioform fait peau neuve. Et pour fêter l'événement, Bioform vous offre 3 mois en plus pour tout abonnement d'un an. C'est fort, non?
Vivez le sport en grand avec Bioform, la seule salle de remise en forme à Ducos. Info 286-386.
Plus convivial, plus pratique et avec son nouveau look qui change tout, le nouveau site de l'OPT débarque sur vos écrans. Avec ses espaces particuliers et professionnels, opt.nc, c'est l'adresse incontournable pour tout savoir sur le courrier, les télécoms et les services financiers. Alors connectez-vous vite sur www.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
L'actualité sportive avec vous, Lionel Sabot.
Et on va parler football avec le coup d'envoi ce matin de la Ligue des Champions. Les clubs européens font donc leur rentrée avec les premiers matchs de la phase de poule, Michael Juneski.
Mais oui, la Champions League 59e édition. 8 rencontres sont au programme de cette première journée. Alors le coup d'envoi des matchs a été donné à 5h45 pour nous. Dans le groupe B, le grand favori et tenant du titre, le Real de Madrid, a ouvert le bal face aux Suisses du FC Bâle, justement. Déjà 4 buts à 1 pour les Madrilènes. Du côté des deux clubs français, en lice dans la compétition, Monaco et Paris, tous nos regards sont bien sûr tournés vers la SM qui reçoit les Allemands du Bayer Leverkusen pour le compte du groupe C. Alors on joue la deuxième mi-temps au stade Louis II, on approche de l'heure de jeu, le score est actuellement de 0-0. Un match très animé où les Allemands dominent mais n'arrivent pas à concrétiser devant le but. Ne reste plus au Monégasque qu'à trouver l'ouverture. On rappelle que le club du Rocher n'avait plus joué la Champions League depuis 10 ans et sa finale perdue contre Porto. On attend donc beaucoup du Monaco nouvelle formule menée par Leonardo Jardim, actuellement en grande difficulté en championnat. À noter sur les autres pelouses, toujours pour le groupe C, ça commence mal pour le Benfica Lisbonne, mené 2-0 par le Zénith de Saint-Pétersbourg. Et Arsenal est également mené 2-0 par le Borussia Dortmund.
Un match qui se joue à Dortmund, c'est l'un des chocs de cette première journée. Du football également sur le territoire, et on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de Calédonie. Le tirage au sort du dernier carré a été effectué hier au siège de la Fédération calédonienne de football, et il nous réserve notamment un choc entre le champion de Calédonie en titre, le FC Gaïcha, et l'AS Magenta, co-leader du nouvel exercice. La réaction de Jacques Sipao, dirigeant du FC Gaïcha.
On affronte quelqu'un qui joue quand même les deux premières places qui sont qualificatives pour la Haute Ligue de l'année prochaine. C'est un gros morceau à laquelle on va se tourner. Mais bien sûr, on compte sur nos valeurs et sur nos derniers résultats pour pouvoir jouer à fond le match de coupe et le tirage qui a été fait en notre faveur. Je crois que sur nos dernières sorties, il y a quand même un peu plus de rigueur à tenir. Là, l'opposition qui nous fait face aujourd'hui, c'est une opportunité pour justement pouvoir rehausser notre niveau de jeu. Peut-être plus sur le registre de la rigueur, être plus rigoureux sur nos phases d'attaque ou de défense pour pouvoir tenir la danger haute au club de l'AS Magenta.
Une réaction également d'Olivier Dokunengo, l'un des joueurs de l'AS Magenta.
C'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix à ce niveau de compétition. Les équipes qui sont présentes sont de très bonnes équipes. L'AS Magenta a hérité du FC Gaïcha, qui est une très bonne équipe. Donc personnellement, je m'attends à un match très disputé face à cette équipe du FC Gaïcha. De toute manière, à notre niveau, il y a toujours des points, des secteurs de jeu à améliorer. On va juste s'atteler à mettre en pratique les consignes du coach. Déjà, si on arrive à faire ça, ça serait quelque chose de gagné. Et puis encore une fois, ça va être un match très disputé face à cette équipe de Gaïcha qui a l'expérience de match de bon niveau, l'expérience de match de coupe. Donc c'est un match à vivre.
Quant à l'autre affiche de ces demi-finales, elle verra une confrontation entre l'AS Lecce et le petit poussé de la compétition, l'AS Grand Nord, qui évolue en promotion d'honneur. Les matchs se joueront le week-end des 4 et 5 octobre au stade Numadélé. Allez, on termine avec la météo.
La 7 Païta, c'est tout l'univers de la construction, de l'eau, de l'outillage pour les particuliers et les professionnels. Plus proche de vous, la 7 Païta, Lozico, téléphone 24 26 29. La 7 Païta vous offre la météo.
Les couleurs du ciel, Robert Canal.
Et attention, vigilance jaune, forte pluie orage, de fortes averses parfois orageuses sont attendues ce matin sur Marais et Lifou. Alors les prévisions pour ce matin, de belles éclaircies apparaissent sur l'ouest et le nord. Le ciel reste très nuageux ailleurs avec des averses éparses. Ces dernières sont parfois modérées sur le sud-est et l'île des Pins et peuvent être fortes et orageuses sur les Loyautés. Le vent mollit autour de Dineux, de secteur nord sur Marais et l'île des Pins. Il est variable faible ailleurs, mais s'établit sur le sud-ouest au secteur ouest autour des Dineux. Les prévisions pour cet après-midi, le soleil dominera dans l'ensemble, même si parfois quelques passages nuageux accompagnés de faibles averses circuleront sur l'ouest. Sur le sud des Loyautés et l'île des Pins, le ciel restera très nuageux avec des averses qui vont s'estomper progressivement. Le vent soufflera de sud à sud-sud-ouest entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le nord-ouest. Il sera faible sur l'est à l'abri de la chaîne. Les températures seront en hausse et atteindront de 25 à 28 degrés.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.